RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Siennave, partner chez EY Luxembourg, et Steve Vermeer, managing partner du groupe Invest. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du marché immobilier luxembourgeois. Alors, vous êtes tous les deux bien placés pour le savoir, le segment de la VFA peine à se relever de la crise que l'on vient de traverser, et qu'on traverse toujours d'ailleurs. Il n'y a pas si longtemps, les experts disaient que les investisseurs avaient disparu du marché luxembourgeois. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Je vais prendre la question pour moi pour commencer. Donc, on est toujours bien dans la crise et même si certains pensent qu'on est en train d'en sortir, il n'y a à mes yeux aucun signal pour l'instant qui prouve qu'on en sort. Donc, on est bien dedans et je pense qu'on est malheureusement, tant qu'il n'y aura pas des réformes fortes sur le logement à Luxembourg, un gros souci à court, moyen, mais peut-être même à long terme.
Mmh. Votre point de vue ?
Oui, si on regarde les chiffres de cette année, on voit clairement qu'il y a une vraie baisse des VFA et là, on remarque et on estime que le dernier trimestre va être catastrophique. Mm-hmm. Si on prend les chiffres de l'enregistrement, on a plus ou moins, on estime 1200 ventes, mm-hmm, qui vont être réalisées.
Sur l'année,
mm-hmm, donc des 1200 ventes, la plupart, et l'acheteur sera l'acteur public. Donc au dernier trimestre, on croit que la plupart des acheteurs sera les communes, l'État ou les fondations. Mm-hmm. Donc on voit clairement que l'acteur public a remplacé l'investisseur privé et institutionnel. Donc à l'époque, on avait plus ou moins 50% d'investisseurs, 50% des personnes qui achetaient pour leurs propres moyens. Et aujourd'hui, les investisseurs, ils sont plus là.
Alors, à titre de comparaison, moi les chiffres, je les connais, mais dans une année où ça allait bien, on faisait combien de ventes au Luxembourg sur la VFA ?
Sur la VFA, on faisait plus ou moins, on produisait 4000 logements, mm-hmm, plus ou moins, et aujourd'hui on produit plus ou moins 1000,
ouais,
si on prend les chiffres de 2024.
Voilà. Et alors j'en profite pour rappeler qu'au Luxembourg, d'après le Statec, on aurait besoin de plus ou moins 6000 logements par an mm-hmm, construits pour répondre à la demande de l'immigration et des nouveaux arrivants au Luxembourg. Alors bien évidemment, avec 1000 logements par an, on est très très loin et ça fait déjà 3 ans que ça dure. Donc j'enchaîne sur ma question qui vous est dirigée, David. Vous avez récemment présenté une analyse des conditions actuelles du marché luxembourgeois dans le cadre d'une réunion à la Chambre immobilière. Quelles sont les tendances que vous souligneriez en cette fin d'année 2025 ?
Les tendances, comme disait Steve il y a quelques minutes, sont à la baisse. Donc on espère que nos chers ministres et notre gouvernement mettent des mesures en place pour aider les familles à se loger, qui est un besoin primaire. Hein. Donc se loger, et manger et boire, c'est le minimum qu'on doit avoir dans un pays qui se dit être un pays dans le top européen au niveau des conditions. Ben, on voit qu'on a besoin d'une immigration pour pouvoir suivre l'évolution économique du pays. Et nous, en interne, chez EY, on a un besoin croissant de main-d'œuvre. On engage entre 300 et 400 personnes par an, mm-hmm, puisqu'on a une croissance qui est quand même à plus de 10-15% par an. Au niveau des employés, souvent des employés qui ont des revenus quand ils arrivent après avoir fait 5, 6, 7, 8 ans d'études universitaires avec des masters, double master, et qui ont parfois un ou deux ans d'activité dans les grosses capitales comme Paris, Londres ou Munich ou Bruxelles, quand ils viennent, ils font directement, il faut les payer au moins à un niveau acceptable, et ils sont directement aussi au-dessus du niveau du logement abordable. Mm-hmm. Donc pour nous, on pense de manière totalement clairvoyante que le logement abordable n'est pas la solution pour aider ces gens-là. Et on sait que les gens qui n'arrivent pas à se loger et qui restent locataires, ils restent locataires un an, deux ans, trois ans, et puis ils s'en vont. Donc en fait, ils viennent se former au Luxembourg, on les accompagne dans leur cycle post-universitaire, on va dire, mais ils ne restent pas chez nous. Donc, gros problème à ce niveau-là.
Ouais. Vous touchez à deux problèmes qui ont été mentionnés plusieurs fois dans cette émission. C'est-à-dire que, déjà, le recrutement de talents, c'est devenu un problème à cause du prix du logement. Aujourd'hui, le prix du logement, en tout cas neuf, n'a pas forcément tellement bougé que ça par rapport à l'existant. Je dis bien, l'existant, on est entre 20 et 25% de baisse. Le neuf, on est plus entre 10, enfin 7 et 10, dépendant des projets et de ce qui a été vendu. Et vous touchez à une autre question, c'est vraiment la fuite des talents, parce que ceux qui finissent par venir ne restent pas. Et ça, c'est un problème pour l'économie luxembourgeoise, on est bien d'accord.
Oui, tout à fait. C'est vraiment le plus gros problème pour nous au niveau d'un Big Four, mais je pense que mes confrères auront le même souci. Et si on a ce souci-là, les autres, on va dire, grandes organisations bancaires, financières de la place ont tout à fait le même problème. Je suis personnellement dans d'autres boards, que ce soit bancaire ou financière de multinationales, et ces gens nous disent exactement la même chose. Ils crient à l'aide depuis bientôt 4 ans maintenant, puisque la crise dure depuis 4 ans et n'est pas prête d'être finie tant qu'on n'aura pas des mesures fortes.
C'est les mêmes retours qu'on a aussi des Big Four, des grosses entreprises de Luxembourg qui ont vraiment du mal à faire venir des gens parce que voilà, le prix du logement, il est où il est, les taux d'intérêt sont où ils sont, et malheureusement c'est une équation qui est très difficile à résoudre. Donc Steve, je me tourne vers vous. Vous êtes le porte-parole des promoteurs à la Chambre immobilière. Vous avez également participé à la réunion qu'on a mentionnée auparavant. Et vous avez mis en avant plusieurs pistes pour relancer l'investissement résidentiel. De quoi parle-t-on spécifiquement ?
Je crois qu'on a eu plus ou moins 70 entrevues cette année avec les fractions, avec toutes les fractions politiques, avec les banques, avec la CSF, ABBL. C'est vrai qu'ils sont à l'écoute, mais on a fait aussi des propositions claires pour l'avenir, et nous espérons qu'en début 2026, en tout cas, il y a des mesures qui vont venir. Nous savons très bien que le gouvernement actuel, il ne veut pas se pencher sur des mesures qui ont été déjà mises en place avant, qui ont aidé plus, la plupart des mesures fiscales qui ont aidé plutôt pour les logements existants, pas pour les VFA. Donc maintenant, il faut clairement des mesures pour stimuler le marché de la VFA. Et là, on a eu quelques pistes. C'était la diminution de la TVA, 6%, comme ils ont fait en Belgique sur la démolition et la reconstruction. On a fait des propositions fiscaux. On a fait une proposition pour une diminution de l'enregistrement. Plutôt pour la partie VFA. Donc il y a plusieurs pistes qui sont là, et on est aussi prêt pour aussi ensemble avec le gouvernement actuel de travailler sur des anciens pistes, ou améliorer des anciennes pistes et trouver d'autres solutions. Mais il faut clairement que quelque chose se passe maintenant pour stimuler les ventes.
Et reprendre la construction.
Reprendre la construction, parce que si on regarde maintenant, on a un déficit annuel de près de 3000 logements, et l'absence de production se traduit donc par une perte économique d'environ 1,2 milliard aujourd'hui pour l'État aussi. Et en plus, on a encore les conséquences qui se multiplient, la perte de la masse salariale, un manque à gagner fiscal, la perte d'impôts sur les bénéfices des développeurs.
Les faillites, le chômage,
la perte des droits d'enregistrement sur la quote par terrain, la perte d'impôts sur les salaires. Donc ça se cumule, et donc il faut créer le logement, et ça le plus vite possible. Donc espérons avec des aides qui vont venir très tôt.
David, vous me faisiez signe.
Oui, je pense que je voulais faire remarquer, il y a deux points très importants que j'avais proposés au début de la crise à un de vos confrères en septembre 2022. Donc on était au début de la crise et tout le monde pensait que ce serait un petit passage à vide avant une reprise forte. Bien fait de constater que 3 ans plus tard, on est toujours dans cette crise et on l'est encore pour, à mon avis, malheureusement, un petit temps. J'avais proposé deux mesures, comme avait dit Steve. J'avais repris simplement copier la loi que les Belges ont développée pendant le Covid, donc de diminuer la TVA sur la démolition-reconstruction, en passant la TVA de 17 à, par exemple, 6%. Ce serait une mesure forte, concrète et qui est très facilement votable. Si la Belgique a pu le faire et vient de l'entériner de manière définitive, puisque entre 2020 et 2025, la Belgique l'a simplement reconduite de manière annuelle. Mmh. Et début de cette année 2025, ils l'ont entériné une bonne fois pour toutes. Donc c'est rentré dans la loi. On entend à gauche, à droite, des signes qui disent que pour le Luxembourg, au niveau de la loi européenne, ce n'est pas possible. Ben, faudrait peut-être se pencher comment les Belges y sont arrivés en un claquement de doigts pendant le Covid pour aider le secteur de la construction et de la VFA. Mais ce n'est pas que pour aider la construction et la VFA, c'est pour aider surtout les gens qui doivent se loger. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est un premier point. J'avais même dit, si vous voulez, appelez-moi cette loi, la loi SINAV. Hein, donnez-moi mon nom, si vous voulez, pour donner de la visibilité. Un autre point qui est aussi simplement à copier de nos voisins, c'est pourquoi est-ce que les banques ne financent pas davantage les VFA au niveau de la construction durant la construction, parce qu'aujourd'hui on sait que les banques luxembourgeoises financent bien les terrains mais moins la construction, hein, puisqu'on était habitué dans un modèle où tout était vendu avant d'avoir commencé. Aujourd'hui, on constate que c'est plus possible. Donc, pourquoi ne pas, une fois que 20, 25 ou 30% des appartements sont réservés, on peut lancer un financement qui peut assurer la continuité. Un autre point aussi qu'on voit, tous les développeurs qui ont réussi avec leurs fonds propres, tant bien que mal, à construire un gros œuf fermé, arrivent sans trop de problèmes à écouler leur stock et leurs marchandises, entre guillemets, leurs appartements. Pourquoi ? Puisqu'il y a aussi les acheteurs qui commencent à avoir peur avec les 2, 3, 4 faillites qu'on a eues ces dernières 2 années, qui disent ben, qu'est-ce qui se passe si demain mon appartement pour lequel j'ai épargné toute ma vie pour mes fonds propres disparaît dans un développeur qui part en faillite. Donc ils attendent que le gros œuf soit fini, même que certains, une partie des parachèvements, avant de venir frapper à la porte des développeurs pour acheter. Donc quand le stock est construit, ça se vend. Et le dernier point que j'avais mentionné aussi, c'est on a une loi qui est assez bizarre au niveau de la VFA, qui n'est pas du tout la même qu'en France ou en Belgique, où quand la partie est construite, le développeur est obligé d'intégrer la TVA dans le prix de vente et on top vient se mettre les droits d'enregistrement. Donc en finalité, chaque acheteur qui vient en bout de course paye son logement encore plus cher. Non pas parce que le développeur gagne plus d'argent, mais parce que l'État veut prendre à la fois la TVA et les droits d'enregistrement sur ces constructions. Et donc là, il y a quand même certainement moyen, encore une fois, nos voisins belges ne sont pas parfaits, et je pense que le modèle luxembourgeois et l'économie luxembourgeoise est bien meilleur, raison pour laquelle je suis belge et que je suis moi-même résident luxembourgeois et fier de l'être. Pourquoi ne pas simplement conserver un droit d'enregistrement sur le terrain et de la TVA, de préférence au lieu de 17, passer à 6, je précise bien, en démolition-reconstruction, ce qui aussi va aider le parc luxembourgeois à respecter les conditions au niveau climat, ESG, isolation et tout ce qui s'ensuit.
Mmh. Je suis absolument d'accord qu'il faut sortir du terrain pour avoir la confiance des acquéreurs potentiels aujourd'hui, mais c'est pas toujours facile pour un développeur aujourd'hui d'avoir deux crédits,
un d'assumer pour l'acquisition, les coûts,
d'assumer les deux, d'avoir surtout sur l'acquisition du terrain et sur la construction. Ouais,
surtout que non seulement les montants sont différents, mais il faut prendre en compte aussi la structure du prêt, les taux à la hauteur où ils sont. Je comprends bien. Alors, vous en avez parlé un petit peu à demi-mot. Du côté politique, on parle de plus en plus d'un modèle qu'il faudrait réinventer, la VFA. Le ministre du Logement était d'ailleurs revenu là-dessus dans la Bulle Immo au mois d'octobre. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Est-ce qu'il faut réimaginer le modèle de la VFA. Alors on a déjà eu de l'initiative dans le sens où les promoteurs constructeurs construisent et vendent à la fin, donc au bout du projet, mais c'est pas possible pour tout le monde, on est bien d'accord. Est-ce qu'il faut abandonner le modèle qu'on a connu jusqu'à maintenant et réfléchir à d'autres alternatives, à votre avis?
Ben, il est clair qu'il faut réinventer le modèle VFA, mais le modèle VFA ne va pas disparaître d'aujourd'hui à demain. Donc il y a une phase de transition, mais c'est vrai qu'à ce stade, on est en discussion aussi avec le ministère de la Justice pour réformer le modèle actuel de la VFA. Et on voit avec la crise qui est venue, avec le marché actuel, que la VFA traditionnelle ne fonctionne plus. Et comme on a dit auparavant, donc il faut sortir du terrain et il faut d'autres modèles.
Mmh. Vous en pensez quoi, David ?
Je pense qu'on n'a pas le choix. Mmh. On doit se réinventer. Le Luxembourg a su, depuis des dizaines, voire une centaine d'années, constamment avoir la capacité à se réinventer au niveau à l'arbette et puis les finances, les banques, etc. Et maintenant, les fonds, etc. Au niveau économique, on a su se réinventer. Donc, on doit rapidement, je dis encore une fois, il y a urgence, on doit s'asseoir autour de la table avec 4-5 décisionnaires et peut-être 5 à 10 personnes du milieu. Je pense que le Luxembourg est un pays qui a la chance d'être habile, agile. Ben montrons-le à nos habitants et aux gens qu'on a besoin, puisque j'ai encore participé à une présentation d'un ministre, M. Bettel, qui disait que la plus grosse différence entre le Luxembourg et tous ses pays voisins, c'était que le Luxembourg était un pays qui avait besoin de main-d'œuvre et de personnes venant de l'étranger. Mais alors, s'il vous plaît, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour accueillir ces gens et pas les obliger à aller habiter à Trèves, Arlon ou Nancy ou Metz. Ils doivent rester chez nous pour qu'ils payent des impôts chez nous, qu'ils fassent des enfants chez nous et qu'ils restent chez nous une fois qu'ils seront en pension.
Mmh.
Parce qu'aujourd'hui, ils viennent, ils travaillent 1 an, 2 ans, 3 ans et ceux qui restent même, ils continuent à louer, mais après, ils retournent chez eux dans leur pays. Donc, on doit absolument capter ces gens et pour l'économie du pays en général. Et je dis souvent, on critique on est dubitatif face au taux de TVA qu'on devrait réduire ou qu'on pourrait réduire. Mais si on vend 0 appartement à 17%, ça fait 0% qui rentre dans les caisses de l'État. Si on en vend 100 ou 500, même à 6%, ça reste très très intéressant pour tout le monde. Et sans compter, comme Steve disait tout à l'heure, on va sauver des familles, on va sauver de la main-d'œuvre qui est en train de partir aussi. Hein, donc c'est aussi la main-d'œuvre sur les chantiers qui s'en va petit à petit. Ce sont aussi des gens qui s'en vont et on va avoir très difficile à aller les rechercher, ces gens-là. Hein.
Mmh, mmh.
Donc, on a déjà vu 5000 ouvriers qui sont partis en 2024, en 2023.
Il y a un vrai problème de manœuvre qui va se présenter sur la construction au moment où la construction devra reprendre, oui, c'est sûr. Ça, c'est encore une discussion qu'on a eue à plusieurs reprises dans cette émission. C'est un problème court terme, mais qui va s'aggraver au long terme dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit le logement, que ce soit l'économie, que ce soit, par après, encore plus loin, les retraites. Comme vous le dites, si les gens ne restent pas au Luxembourg, ne payent pas leurs impôts au Luxembourg, ne s'installent pas ici, on aura un problème avec le modèle économique d'aujourd'hui. On sait déjà que
les macroéconomiques, ça c'est
voilà. On sait déjà que le système des retraites doit être réformé et qu'il ne suffira pas à nous supporter dans les années qui viennent. Donc c'est sûr que si en plus de ça l'immigration et tout ce qu'on capte derrière se réduit, on aura un gros gros problème au Luxembourg. Alors je veux revenir quand même sur la phase un petit peu dont on se rappelle tous, hein, les années où les prix se sont envolés sur le marché. Il y a eu un moment où les biens, vous l'avez évoqué, David, se vendaient quasiment tout seuls. Est-ce que à ce moment-là, parce que j'ai discuté avec plusieurs acteurs du marché, est-ce que vous avez vu venir la crise? Parce que déjà en 2020-2021, on voyait un ralentissement sur l'activité. Alors, les biens se vendaient toujours, il y avait encore pas mal de constructions, mais l'activité sur le AVFA commençait déjà à baisser à cause des prix, tout simplement. Est-ce que cette crise, on pouvait la voir venir ? Est-ce que, il m'a semblé quand même que beaucoup d'acteurs du marché pensaient que l'augmentation des prix et des bénéfices ne s'arrêterait jamais.
Ben, je vais reprendre la phrase d'un PDG d'entreprise qui est M. Piron, qui a dit un jour en 2018-2019 « Les arbres ne monteront pas jusqu'au ciel ». Et il avait tout à fait raison. Je pense qu'il est assez d'expérience et il avait une vision assez stratégique en se disant qu'à un moment donné, ça devrait s'arrêter. C'est clair que quand l'argent coûtait zéro au niveau du financement et que les banques ouvraient les crédits jusqu'à 100, voire parfois jusqu'à 110 ou 115% du montant à financer, ben, les gens ne se posaient pas trop de questions et les prix pouvaient continuer à monter. Le fait que les crédits se coûtent aujourd'hui, heureusement ça commence à diminuer un tout petit peu, mais ça reste toujours aux alentours des 4% pour un ménage moyen pour se financer. Mais il est clair que 1 plus 1, ça fait 2. Je veux dire, où aujourd'hui, avant, on se finançait à du 1% sur 1 million pour un appartement de 75 mètres carrés. Aujourd'hui, l'appartement, il coûte peut-être plus que 750 ou 800 000, puisque je pense que les corrections dans la VFA, elles sont pour moi plus autour de 15-20%, malheureusement, à l'échelle nationale, que 7 à 10%, malheureusement. Même en payant 25% de moins son logement,
on a perdu 30% de pouvoir d'achat. Donc,
Votre crédit vous coûte plus cher à long terme. Donc, vous achetez facialement moins cher, mais sur les 20 ans qui viennent, vous payez beaucoup plus cher puisque votre financement vous coûte 4%. Donc, voilà, je pense qu'on doit vraiment. Je pense mettre un groupe de travail avec des ministres, des avocats, des développeurs, des constructeurs et peut-être des gens qui voient les consommateurs aussi, qui se mettent à la place du consommateur.
Je crois aussi qu'il faut dire que c'est bien qu'une certaine correction est venue sur le marché, mais je crois qu'une guerre ou un Covid, ce sont deux cas qui n'étaient pas prévisibles du tout. Donc on a aussi eu beaucoup d'impact externe, des choses qui se sont passées où on n'avait pas...
Ouais. Après le Covid, ça a eu un impact entre guillemets positif sur le marché du logement, dans le sens où ceux qui vendaient pouvaient vendre plus cher parce qu'il y avait la demande et revenus, quoi.
Oui.
Enfin, la demande était déjà très élevée, on est bien d'accord. Alors je vous lance une question que beaucoup d'auditeurs se posent certainement après cette crise et avec les niveaux de taux et de prix actuels dont on a déjà parlé. Est-ce que je pense que cette question, elle est un peu évidente. Enfin, la réponse est un peu évidente, mais je vous la pose quand même. Vous êtes bien placé pour y répondre. Le marché luxembourgeois, est-ce qu'il est toujours attractif pour les investisseurs aujourd'hui ?
Il est difficile. Il faut se dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas un rendement... Et je sors à l'instant d'une autre réunion avec des investisseurs... Aujourd'hui, ils cherchent du rendement à plus de 5% sur du logement.
Mmh.
Où il y a 4 ans, on était peut-être à 2,5, 2,75. Mmh. La différence, c'est le spread sur le crédit bancaire. Donc, mais trouver aujourd'hui du logement à plus de 5% de rendement chez un développeur qui a dû acquérir malheureusement son terrain entre 2015 et 2021 ou 2022...
Il n'y a pas de marge.
Il n'y a plus de marge ou il va en faillite. Donc, on est un peu devant un dilemme. Et donc, aujourd'hui, les investisseurs, que ce soit, on va dire, au niveau du bureau, des hôtels ou encore du logement, ils veulent un réel rendement qui est comparable aussi à d'autres capitales. Hein. À Londres, vous trouvez des immeubles où vous faites du 6, 7, 8% hein, de rendement. Hein. Et vous êtes à Londres, hein, je veux dire. J'adore le Luxembourg, on est fiers d'y être et on y croit toujours, parce qu'on sait, sinon on serait pas là, on serait pas dans le débat d'aujourd'hui. On veut se battre pour, mais on ne doit pas sous-estimer des villes comme Munich, Londres, Paris, Bruxelles. Je veux dire, ce sont aussi des grosses capitales économiques. Hein. Donc, ouais. Si on doit pouvoir se battre à armes égales, quoi.
Mmh.
Ouais, je crois aujourd'hui les investisseurs ils viennent pas seulement au Luxembourg, pas au Luxembourg à cause des rendements qui sont très bas aussi, comme a dit David, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, mais ils viennent aussi plutôt pour la stabilité politique et économique. Et donc on a la chance qu'on a un pays AAA, il faut le rester, mais il faut aussi trouver des mécanismes et d'autres outils pour de nouveau devenir attractif pour des grandes sociétés à venir au Luxembourg. Pour stimuler de nouveau le marché du logement. Parce que, comme on a dit auparavant, maintenant, on a remarqué au dernier trimestre que c'est plutôt l'acteur public qui a remplacé les investisseurs. Et il nous faut de nouveau des professionnels, des investisseurs privés pour investir.
Alors la question que je vais vous poser, elle est très très liée à celle que je viens de vous poser. Donc, on a toujours considéré la pierre comme une valeur refuge, en particulier au Luxembourg. La pierre, on est bien d'accord que c'est le foncier qui a fait augmenter les prix au Luxembourg, mais on parle souvent de pierre. Est-ce que la pierre, elle reste une valeur refuge au Grand-Duché et en Europe ?
Je pense que la pierre restera toujours une valeur refuge, mais son attractivité actuelle a fortement diminué, mais ça reste un produit attractif. Ça l'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, et ça le sera toujours dans 10 ou 20 ans. Si vous investissez d'abord dans un bien pour que ce soit votre habitation, donc vous n'en attendez pas un return direct. Vous en attendez juste d'avoir une joie de vivre et un plaisir pour partager avec votre mari, votre épouse ou vos enfants. Donc ici, on parle du besoin de base. Hein. On ne parle même pas encore purement de la rentabilité. Mm-hmm. Et comme on disait tout en début du débat, si on construit à peine 1000 logements cette année, on évoquait le chiffre de 6000 minimum. On entend que c'est parfois 8000 minimum. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a entre 5, 6, voire 7 000 logements en moins chaque année, mais depuis déjà 20 ans. Hein, je veux dire, même quand on en construisait 3 000 ou 3 500, on était toujours 3 000 trop court. Donc ça ne fait que s'accumuler. Et qu'est-ce qu'on crée par ça ? On crée l'effet de levier sur les loyers pour les locations qui deviennent évidemment
très élevés.
Je déjeunais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait qu'il gagnait 5000 euros net et qu'il versait plus de 3500 euros dans son loyer. Mmh. Donc il dit, il me reste 1500 euros pour vivre avec ma famille. On ne parle pas d'investissement pour gagner de l'argent ici. On parle d'investissement pour habiter, avoir un toit et pouvoir dormir. Quoi.
Après, la question, pour moi, se justifie dans le sens où au Luxembourg, on s'est quand même habitué. Pour les gens qui n'arrivent pas sur le marché, ils y étaient déjà entre les années 2010 et 2022, on pouvait s'attendre à revendre son logement 2-3 ans plus tard, 20-30% plus cher, et c'était un petit peu quasiment le plan. On achetait un appartement, on le revendait plus cher, on allait chercher quelque chose de plus grand. C'est pour ça que je vois
la plus-value qui n'est plus là,
qui était quasiment garantie à l'époque. Ça l'est plus aujourd'hui.
Ça reste quand même un investissement stable, mais le fait que l'exigence des banques nous demande 20% de fonds propres et le fait que ça rend presque impossible d'investir dans la pierre pour quelqu'un qui veut acheter un deuxième logement pour investissement, pour avoir un certain rendement locatif.
Oui, on ne se rend pas compte parce qu'il faut prendre 20%. Je le dis pour les auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes, mais 20% sur 1 million, c'est une sacrée somme. Hein. Il faut l'avoir, la somme de côté. On pense souvent donc à l'aspect logement des locaux du marché. Des locaux, donc quand je dis locaux, c'est les résidents du marché immobilier, c'est-à-dire comment nos enfants vont pouvoir se permettre un appartement au Luxembourg, mais beaucoup oublient l'aspect professionnel et économique, donc on l'a un petit peu évoqué auparavant. On le sait, le logement est devenu un vrai obstacle à l'heure de recruter des talents pour les entreprises installées ici. David, vous avez même parlé de la fuite des talents. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attractivité du Luxembourg est en péril ?
Mais je vais vous répondre par un exemple d'un de nos confrères, on ne va pas citer de nom, ça ne sert à rien, qui a décidé de développer des business centers dans d'autres pays, comme le Portugal, ou la Lettonie, ou des pays de l'Est. Et au lieu de grandir de 200, 300, 400 personnes par an au Luxembourg, eh ben, ils vont rester comme ils sont et vont engager 5, 6, 700 personnes au Portugal ou 5, 6, 700 personnes dans des pays de l'Est. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Mmh. On va créer de la richesse au Luxembourg pour aller loger et pour entre guillemets faire exporter ces gens qui finalement au lieu de prester au Luxembourg presteront dans des pays européens où les gens peuvent se loger.
Mmh.
Donc je pense pas que ce soit le modèle que le pays désire, quoi.
Mmh. Steve, vous pensez que l'attractivité du Luxembourg elle est en péril?
C'est clair qu'il faut essayer en tout cas de rester attractif et d'essayer avec des nouveaux modèles. Comme on était toujours innovant, on a toujours trouvé d'autres secteurs pour investir et pour devenir de nouveau attractif. Donc maintenant, c'est vraiment il faut que le gouvernement de nouveau fait tout possible pour attirer des talents et faire venir des grandes sociétés qui veulent venir au Luxembourg à cause de la stabilité économique, politique, mais aussi parce que les communes et le ministère, ils leur font sentir qu'ils sont bienvenus ici au Luxembourg. Et je crois que ça, c'est très important. Nous sommes au centre de l'Europe, nous avons vraiment un pays qui peut offrir tout.
Sauf le logement, apparemment.
Il y a plein de logements, il y a quelques milliers de logements qui sont prêts à construire. Donc tout le monde est là.
Non, mais dans le sens où il y a un blocage aujourd'hui.
Il y a un vrai blocage. Donc il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de communes qui sont très réticentes et c'est difficile de les convaincre. Parce qu'aujourd'hui, un bourgmestre, pour donner une autorisation, il faut le convaincre d'abord.
Ouais.
Donc une autorisation pour un grand projet dans une commune, ça veut dire de nouveau beaucoup plus d'habitants, beaucoup plus de pollution, beaucoup plus d'infrastructures. Donc c'est un investissement pour une commune. Donc il faut une vraie motivation politique et il faut aller chercher de nouveau des grandes entreprises et il faut avoir une croissance qualitative. Ça c'est très important.
Alors je rappelle pour nos auditeurs qu'au Luxembourg, effectivement, les communes ont le dernier mot. Hein, c'est lié au principe d'autonomie des communes et que généralement l'État a du mal à intervenir et ne veut pas intervenir très souvent.
Ne peut pas.
C'est pour compléter ce que Monsieur Vermeer disait. on a un petit peu touché la question, mais à vos yeux, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour relancer la construction de logements au Luxembourg? Alors, il y a les incitations fiscales, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres programmes qu'on pourrait lancer pour s'assurer que là, ça reparte? Parce qu'effectivement, ça fait 3 ans qu'on est quasiment à l'arrêt.
Oui, on a les mesures fiscales d'un côté, on a la réforme de la VFA, mais on a aussi encore tout le volet de la simplification administrative. Donc on a eu encore une entrevue la semaine passée avec le ministère de l'Intérieur pour discuter des 40 mesures qui sont sur la table. Je dirais la plupart des mesures vont venir dans 2 ans.
Vous anticipez ma prochaine question, mais c'est très bien,
donc,
allez-y.
Donc voilà, il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, mais il y a encore beaucoup, encore plus qui doit se faire. Donc, mais c'est vrai qu'au niveau des démarches administratives et des délais, c'est incompréhensible ici au Luxembourg. Ça prend des années pour construire, et pas seulement les PAP, je parle pas seulement des PAP, mais aussi dans les quartiers existants. Donc pour construire quelques maisons, ça prend 3-4 ans. Donc, et on remarque vraiment que beaucoup de communes ici au Luxembourg ont du mal ou n'ont pas la volonté, en tout cas la volonté politique ou la motivation d'accepter une certaine croissance dans leur commune. Et c'est très 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 difficile de les convaincre, en tout cas pour les projets de grande envergure.
Et vous l'expliquez comment? La peur du changement, le fait que Luxembourg veut rester des petits villages ou...
plus d'habitants, ça veut dire plus de gens aussi qui se plaignent. du bruit, des travaux, plus de voitures sur les routes, plus de trafic, donc plus de pollution. Comme j'ai dit, comme j'ai expliqué, il faut, pour les communes, il faut investir dans les écoles, dans d'autres, dans des infrastructures. Souvent, ils n'ont même pas l'argent pour investir. Donc, c'est devenu très, très, très complexe. Oui.
Je pense qu'on a déjà repris pas mal d'éléments. Le Luxembourg est un pays très agile. On a la chance de pouvoir accéder rapidement aux décideurs. Steve le précisait tout à l'heure qu'il y a eu plus de 70 rencontres entre les différents organes, chambre immobilière ou la future FDI. Nous-mêmes, on a un accès assez fréquent vis-à-vis des communes, des décideurs ministériels. Mais je pense qu'ils doivent prendre conscience qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. On doit juste agir et pas penser que ça va venir tout seul et que ça va se rétablir. Parce qu'on voit, enfin, je veux dire, les années passent et les dégâts collatéraux qu'on est en train d'avoir avec le fait de penser que ça va aller mieux, je pense qu'aujourd'hui, il faut rapidement agir. Ça fait presque 4 ans que ça dure, hein? Donc ça fera, en juillet 26, ça fera 5 ans. Juillet 21, on a senti que la terre avait tremblé à Luxembourg. Il faut plus attendre, on peut plus attendre 2 ans. Je veux dire, sinon c'est encore beaucoup plus de retard qui va être accumulé. De sociétés qui potentiellement auront mis la clé sous le paillasson, de familles qui seront reparties. Je pense qu'il faut, mettre des mesures en œuvre dans le premier trimestre 2026 pour faire repartir la machine. Et pas forcément arrêter... je pense qu'il faut arrêter de penser que tout ça, c'est pour uniquement faire gagner plus d'argent aux développeurs parce que c'est plus le cas aujourd'hui. Ils ont tous du mal aujourd'hui et on a besoin des développeurs aussi pour faire vivre l'économie. Et je pense pas que ce soit le rôle, même si chapeau aux ministres qui ont décidé d'investir, je pense que c'est plus de 150 millions dans le logement. Mais est-ce que c'est la fonction d'un pays d'investir dans le logement? Je pense qu'il est plus facile et préférable de mettre des mesures en œuvre pour que les gens puissent acquérir leur logement de manière normale sans devoir aller vers du logement abordable qui là aussi a montré qu'eux aussi ils ont du mal à produire ce qu'ils aimeraient bien produire. Donc laissons les développeurs faire leur métier et laissons-le gagner un peu d'argent. Mais aujourd'hui ils ont acquis des terrains depuis 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans et le fait d'attendre ne fait que de les pousser encore plus bas. Les intérêts bancaires de l'acquisition de ces terrains coûtent une fortune. Heureusement, les banques soutiennent la plupart des développeurs encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un réel travail entre les développeurs, les banques, les ministères, des gens comme nous qui avons un peu une vue à 360 degrés sur qu'est-ce que le développement, qu'est-ce que la construction, comment est le marché de la VFA, qu'est-ce qu'un ministère pourrait mettre en œuvre au niveau fiscal pour aider les gens. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre conscience qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit, on n'a plus les moyens d'attendre encore 2 ans. Il sera trop tard. Il sera beaucoup trop tard.
Oui, il faut quelque chose à court terme. Mais je veux seulement ajouter, la plupart des mesures fiscales qui étaient en place, je crois 88% des mesures ont été appliquées ou bénéficiées pour l'existant et pas pour les VFA. Il faut maintenant vraiment quelque chose pour la VFA. Et à côté de tous les problèmes de financement, des coûts, des crédits qui sont plus élevés que dans d'autres pays, ou les délais, ou la réticence des communes, ou le manque d'offres, on a aussi encore le problème que la construction est devenue tellement complexe aujourd'hui. Et il y a des normes qui ont été mises en place qui sont contre-productives. dans les différentes communes. Donc mmh. là aussi, il y a une certaine réforme à faire. Ça prend encore des années, malheureusement. Mmh. Mais on voit chaque commune travaille pour à ses propres normes.
Vous l'avez évoqué, justement, j'en discutais avec un de mes invités le mois dernier. La différence des niveaux de financement au Luxembourg, parce que il me donnait l'exemple de la Belgique où les taux étaient quand même un cran plus bas.
En France aussi.
Est-ce que c'est pas un réel frein aussi, ça, le manque de, disons, flexibilité des banques au Luxembourg?
Mais je pense qu'il faut relativiser, puisque si vous déposez votre argent sur un compte à terme au Luxembourg, vous aurez plus que sur un compte à terme en Belgique ou en France. Donc je pense que d'un côté, ils vous donnent plus sur votre compte à terme, d'un autre côté, ils vous demandent un peu plus sur votre crédit. Donc c'est juste le marché qui est légèrement différent. Ce qui a fortement changé entre 2021 et aujourd'hui, c'est le spread. Donc c'est entre le niveau où se finance la banque à proprement dit et la marge qu'ils exigent. Où avant on avait un spread aux alentours de 1, mm-hmm. Aujourd'hui on a rapidement des spreads aux alentours de 2, mm-hmm. voire de 2,5. Donc ce que je peux comprendre pour certaines banques, puisque pour eux c'est un niveau de risque, hein, qu'ils essayent de... Et c'est tout à fait logique, tout le monde essaye de... Mais je pense que c'est justement là qu'autour de la table, non seulement les développeurs, mais les banquiers doivent aussi être à l'écoute et voir ce qu'ils peuvent, entre guillemets, mettre en place en association avec toutes les banques, pour pas que ce soit une seule banque qui se joigne autour de la table.
Parce qu'il y a urgence, hein. il faut le dire, il y a urgence en tout cas sur le secteur de la VFA, enfin sur le segment de la VFA, et en termes de construction au Luxembourg, il y a urgence.
Mais on ne veut pas que les gens laissent leur argent sur le compte à terme, on veut qu'ils investissent dans le logement.
Mm-hmm. Alors je prends une petite quelques secondes pour rappeler que on va probablement très vite parler en début d'année des chiffres records qu'il y aura sur le marché de l'existant. Il faut pas que nos auditeurs comprennent ça mal, hein. Le marché de l'existant a effectivement été relancé par les aides qui ont été mises en place par l'État, et si j'ai bien compris, on va apparemment briser le record de vente sur l'existant. Ce n'est pas du tout le cas sur la VFA, et de la VFA découle le nombre de constructions qu'on peut avoir au Luxembourg. On a déjà parlé du problème que ça peut poser à court et moyen et long terme. Et pour clôturer cette émission, je vous pose une question un peu plus ouverte. Vous la voyez, je devine votre réponse, mais vous la voyez comment cette année 2026 qui arrive à grands pas?
Moi, je veux rester positif. J'aimerais bien lancer un appel avec Steve. On ne s'est pas parlé avant, mais je pense que fixons rendez-vous deuxième semaine ou troisième semaine de janvier avec les porte-paroles ou les ministres, mais tous les ministres ensemble, l'intérieur, les gens qui décident au niveau du logement, les gens qui décident au niveau de la TVA, au niveau des aides fiscales, parce que je pense qu'il faut d'abord sauver les gens qui doivent se loger avant de sauver les gens qui veulent investir. Évidemment, l'un va avec l'autre, mais sauvons d'abord les gens qui veulent habiter à Luxembourg et pas ceux qui veulent acheter un immeuble en une fois, je vais dire ça comme ça. Ces gens-là, aujourd'hui, ils ont pas de problème d'argent, puisque s'ils peuvent acquérir un immeuble en une fois, c'est que c'est pas pour s'y loger. Mais faisons un appel de toutes ces personnes pour essayer de trouver rapidement... Je dis, si on arrive à se mettre autour de la table avec une représentation des banques, une représentation des ministères qui ont leur mot à dire, je reste convaincu que la TVA et simplifier la VFA, c'est quelque chose qui est votable et décidable rapidement, et que pour fin mars 2026, on ait des mesures claires qui soient mises en place et applicables.
Mmh. Il faut en tout cas rester positif, et je crois que le plus important est d'avoir un dialogue constructif avec les partis politiques et avec le gouvernement pour améliorer et mettre en place des mécanismes pour attirer les investisseurs.
Mmh. Alors, on est arrivé au terme de cette émission. David, Steve, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir en studio. À nos auditeurs, on se retrouve l'année prochaine pour un épisode très spécial puisqu'il se déroulera devant les caméras. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Merci encore.
Merci beaucoup.